Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Comic City Chronicles. C'est le troisième de la série podcast de débat, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission. Deux sujets traités avec des invités différents. Pour ce premier sujet, pas mal d'invités, et même une guest star, puisque c'est pas quelqu'un de l'équipe habituellement. Donc le sujet, c'est très simple, la place des filles dans les comics. Des filles ou des femmes, on va pas polémiquer là-dessus. Donc pour ce sujet, on va commencer par les femmes. Tout d'abord Claire.
Bonjour tout le monde.
Et puis Kachou.
Salut, salut.
Kachou du blog The Lesbian Geek, que vous pouvez retrouver à thelesbiangeek.wordpress.com, tout attaché. De toute façon, on mettra le petit lien dans la note qui accompagne le podcast. Eh bien, ravi de recevoir.
Déjà. Ah ben, ravi, moi aussi, je suis très contente de parler avec vous.
Ben, ça fait plaisir.
Avec on lui... se connaît, hein.
On l'a déjà rencontré en vrai.
Voilà, au LCF, pour ne pas le nommer.
Oui, on s'était déjà rencontrés là-bas, oui, effectivement, oui.
Et elle a vu Steve dans tous ses états.
Voilà, oui, ouais, non, mémorable.
J'espérais qu'on ne reparle pas de ces incidents.
Pour ne pas. Et elle a quand même accepté de venir.
Oui, c'est ça qui est beau.
Dis tout de suite que je suis pas sortable. Allez-y.
Oh, on a fait une très très bonne soirée, non mais...
C'est un autre débat.
Oui, mais moi j'en garde un très bon souvenir.
Oui, bon. Tu en as des souvenirs, donc.
Oui, j'en ai des souvenirs, je me rappelle de tout, malheureusement.
J'en ai pour nous deux, les souvenirs.
Oui, je pense, voilà. Non, mais je me rappelle honnêtement de tout, malheureusement, devrais-je dire. Et Claire se rappelle d'une partie aussi.
Ouais, moi je me rappelle de l'après-soirée.
Ouais, c'est le
coup. En fait, ça c'est la chance d'être, d'être la femme, justement, t'as l'après-soirée.
Le moment où j'ai fait partir le débat, là, c'est
revenons bien. Vite aux invités, revenons vite aux invités.
C'est mieux, c'est intéressant, ouais.
Avant que ça dérape. Du site Cable Chronicles, le seul représentant d'ailleurs de Cable Chronicles pour ce débat, Lex.
Oui, salut, bonne, bien joué, bon coup.
D'accord.
Donc c'est sa première fois qu'on
vous fait l'entendre. C'est donc je risque de dire des trucs un peu bizarres. Mais...
Pas du tout nerveux.
Car c'est vrai que... La dernière fois, tu devais participer au débat avec nous, et puis tu as eu un empêchement de dernière minute.
Exactement.
Un dîner qui n'était pas prévu.
Exactement, ouais.
Tu as écouté le débat, tu l'as regretté de ne pas être venu.
Toujours, hein, j'écoute tout, tu sais.
Le dîner était-il plus intéressant?
Ah ouais, ça allait, c'est des dîners de famille, hein, tu sais, donc...
Non, bon.
On en conclut que non, mais que tu n'oses pas le dire.
Parce que sa famille va écouter ensuite.
Il faudrait faire un podcast spécial dîner de famille. Je pense qu'il y aurait des choses à dire aussi.
La famille dans les comics. Hein.
Oui, une peut-être prochaine idée de débat. Voilà. On verra. Et puis, bien sûr, du site Comic City, Sam.
Salut.
Notre chroniqueur unspoken. Mmh.
Le fan de Morrison.
Oui.
Voilà, des sollicitations, des chiffres de vente, plein de choses. Il écrit plein de choses.
Et je ne peux m'empêcher de repenser à ce que Benny disait en off hier sur Morrison.
Non, je vais sortir une autre fois.
Voilà. Oui, il nous a fait très très bonne blague sur Morrison, mais vraiment...
On peut pas la dire à Morrison.
Et donc, vous l'avez reconnu, puisqu'on l'a déjà cité, Benny.
Monsieur René Benny.
Ouais. Notre Mister René Benny.
Ah ben non, mais d'ailleurs, aujourd'hui, exceptionnellement pour vous, ce sera Madame René Benny.
Donc tu t'es auto-amputé, tu contre-collais ça après le débat.
Bah écoute.
D'accord. Eh ben on verra si ça marche, tu nous tiendras au courant.
Je veux une photo du petit pompon sur les fesses que tu remets.
C'est la quatrième dimension.
Voilà, Martin, il va falloir que tu changes de voix, hein, Benny, parce que moi j'y crois pas du tout. Hein.
Ah oui.
C'est une femme qui a pris des hormones de mâle pour concourir dans les concours d'athlètes, ce genre de choses.
Comme certaines héroïnes d'ailleurs.
Voilà.
Ah ben on va en parler justement. Alors, Steve, on t'écoute.
Voilà, bien sûr, on va en parler. Steve, ouais, j'essaye de pas faire de lien, mais je peux pas m'empêcher.
Premier sujet.
C'est les cheveux longs, je pense, c'est pour ça.
Ça doit être ça. Ouais. Bizarrement, la barbe, ça repousse pas.
Non mais Dodo avec le peignoir rose, hein.
Et on y retourne. Donc les filles dans les comics c'est un vaste sujet, donc il est clair qu'on n'arrivera pas à être exhaustif, on pourra pas parler de toutes les filles dans les comics. Faut pas s'attendre à ça, c'est pas possible.
Si moi j'ai fait la liste.
Ah, toi aussi.
Huntress, Wonder Woman, Power Girl.
Eh bien on va peut-être commencer par parler des personnages justement. avant d'attaquer d'autres sujets comme les auteurs ou les lectrices, à moins que quelqu'un veut parler d'autres choses avant.
Non, non, vas-y. Bah,
écoute, je vais aller faire mes courses hier, si vous voulez parler.
Et t'as rencontré des caissières, donc.
voilà, on a discuté du podcast d'aujourd'hui.
On oublie trop souvent les caissiers, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Oui. Non, les hôtesses de caisse.
Oui, voilà.
Les
hôtesses
de caisse, on dit. Les hôtes de caisse.
Ou les hôtes de caisse, hein. Oui.
Oui, il y en a.
Il y a plus de garçons, oui.
Hein, eh bien, vous voyez, on est sur un sujet où on parle justement de parité. Ah, la caisse, la parité des caissiers et des caissières, c'est important.
Ouais, c'est important. Et d'ailleurs, les hommes caissiers sont en général beaucoup plus sympas que les caissières, j'ai remarqué.
Oui, je confirme.
C'est vrai. Un détachement par rapport à leur travail qui les rend plus sympas.
Non, c'est parce que leur milieu de travail est plus facile.
Milieu de travail plus facile, je suis pas forcément d'accord et malheureusement je sais de quoi je parle. Donc,
ayant travaillé en caisse pendant de longues années,
toi aussi.
J'ai été pas mal chouchouté par justement l'environnement féminin. Donc,
C'est vrai que c'est l'avantage.
Et oui.
Ça c'est un avantage non négligeable. Ah, là, il y en a une qui fait du genre, toi, je te parle après.
Je passe ma vie entourée d'hommes, donc de toute façon. Ça me paraît logique.
Alors que les femmes qui travaillent dans un milieu d'hommes ne sont pas forcément chouchoutées par eux. C'est ça.
Le truc. D'ailleurs, c'est vrai, moi j'en prends plein la gueule, hein, regarde. Ouais. À chaque fois, on dit que c'est de ma faute, c'est tout. Je confirme. Hein.
Ouais, non.
Eh bien, est-ce qu'il arrive aux personnages de comics, justement, à ces filles qui sont mêlées dans un milieu de, notamment de super-héros, puisque c'est quand même le sujet principal des comics, mais pas que. Mais c'est vrai que le principal sujet des comics étant les super-héros, mêlés dans un monde où les hommes se baladent en collant. Est-ce que justement, elles sont pas peut-être pas chouchoutées et justement mises à l'écart? Ouais, je vous laisse parler maintenant. Je lance une idée et puis...
Bah, disons qu'on a quand même commencé la place de la femme dans les comics, c'était plutôt celle de la demoiselle en détresse, en fait. C'était le stéréotype de base dans... Je dirais la quasi-totalité des séries de super-héros quand ça a commencé. C'était le principal intérêt.
C'est moins de l'amour quand même de sauver un homme.
Il y avait quand même une série qui leur était complètement dédiée, mais c'était des séries du style Nelly l'infirmière, Clara la maîtresse d'école. Enfin voilà, c'était.
Il y a la plage.
Pas très glamour quoi. C'était ce qui faisait rêver les petites filles à cette époque en fait quoi.
Non, moi je pense que c'est une question de statut aussi, qui est liée par rapport à même l'histoire de l'émancipation de la femme, tout simplement. C'est-à-dire à quelle place on met la femme dans la bande dessinée et aussi dans la société. Mmh. Et je pense que ça se suit en fait, ça a une relation, il y a une relation entre les deux. Donc oui, c'est vrai que dans les années 40, les années 50, les femmes étaient considérées comme des femmes au foyer, donc c'était vraiment le sexe faible, hein, comme on l'appelle.
C'était la grande époque.
La grande époque, voilà.
T'as pas fini ta phrase. En fait, il voulait dire la grande époque de la révolution industrielle.
Oui, c'est ça, tout à fait.
La télévision et tout, mais...
J'oublie que travaillant toujours avec Bunny, on se complète et on sait ce que l'on pense, et pas tout le monde. Merci Bunny pour le sauvetage, je t'en dois une.
Mais de rien.
Et donc, depuis petit à petit, je pense que les femmes ont pris le pouvoir, entre guillemets. C'est pas forcément une question de pouvoir, mais elles ont pris de l'importance, autant dans la société et aussi dans les personnages. Mm. Même en tant que super-héroïne, comme Wonder Woman, Power Girl, pour ne citer qu'elles, mais aussi en tant que personnage dans les bandes dessinées indépendantes, par exemple, notamment à l'époque des années 70, avec la libération sexuelle, le mouvement féministe, on a eu droit à des personnages beaucoup plus intéressants, et on retrouve ça notamment dans la BD, les comics underground, la bande dessinée indépendante américaine.
Lex, tu veux réagir là-dessus peut-être?
Bah, en fait, de toute façon, les comics en général sont, les histoires des comics, au-delà de l'aspect féminin, est toujours liée à l'actualité, que ce soit politique, etc. Donc,
oui, tout à fait.
La dimension de la femme, elle a progressé avec l'histoire de la femme,
voilà.
En fait.
Voilà, c'est ça.
Donc, au départ, on avait
des femmes pas fortes du tout, qui servaient pas, qui servaient à faire, enfin, c'était du décor, quoi.
Oui, c'était un faire-valoir du héros.
Du faire-valoir, c'est ça.
Exactement, ouais. Aujourd'hui, on a des femmes fortes qui dirigent seules leurs opérations, etc. On le voit avec Birds of Prey ou des trucs comme ça. Mais c'est lié à notre actualité où les femmes ont pris beaucoup plus de poids et ce qui est, et ça se voit dans les comics, quoi.
Ouais, ça se voit aussi dans la rue, hein. Les États-Unis en tout cas, les femmes ont pris beaucoup plus de poids.
J'en étais sûr.
Ah, bah, je pouvais pas. Il y a une perche qui est tendue, je peux pas m'en empêcher.
Ah bon, elle était. Non, excuse-moi.
Ça y est, il se réveille.
Là, tu as dit quelque chose, oui, qui prêtait à confusion.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la rue, Steve ?
Non, rien. Rien, non, je disais simplement que les femmes avaient pris du poids.
D'accord.
Les femmes américaines avaient pris du poids.
C'est la vanne.
Les femmes américaines, hein, grosso modo, ont vraiment pris du poids.
J'aime bien parce qu'il sait qu'on n'est pas écouté aux États-Unis, enfin pas tellement.
C'est pour ça que je
passe. Texas, quand même. Hein.
Pour revenir sur le sujet de la femme à travers l'âge et par rapport aux comics, pour moi le plus gros exemple de ça, c'est le personnage de Lois Lane, qui a vraiment évolué tout au long de sa carrière en fait. On peut le voir avec sa série qu'elle avait eue, Superman's Girlfriend's Lois Lane.
Ouais, ouais.
137 épisodes quand même au compteur, c'est pas rien. Et les premiers épisodes sont ridicules. Sont ridicules. Alors qu'aujourd'hui, Lois Lane est vraiment un personnage très important.
Je serais pas aussi.
Moi je trouve que c'est quand même.
La dernière décennie a pas été tendre avec elle. Quand même,
Il a eu son importance à une époque, ouais. Mm. Ouais. C'est vrai que maintenant.
Et depuis quelques années, elle a pas eu vraiment beaucoup d'histoires centrées sur elle.
Mais en même temps, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est le comique de Superman, même si c'est sa femme aujourd'hui.
Mais ce que je veux dire, c'est que pendant des années, pendant les années 80-90, elle avait toujours une histoire qui lui était consacrée. Enfin, c'était une des histoires qui se mêlait au reste. Alors que là, c'est vraiment.
On a l'histoire du général Lane hein, quand même actuellement. Enfin, c'est fini maintenant aux États-Unis, mais en France, en tout cas, c'est ce qu'on a. C'est quand même son père, quoi. C'est à cause de lui qu'arrive pas mal de conneries à Superman. Donc ouais, elle est entre guillemets responsable. C'est vraiment entre guillemets. Hein.
Bizarrement, Lois Lane, je l'ai toujours trouvé comme justement pas un personnage super intéressant au niveau. Tu vois, il y a des personnages féminins qui sont super du genre Zatanna, Power Girl, Wonder Woman, etc. Mais Lois Lane, je l'ai vraiment toujours trouvé comme un personnage secondaire sans vraiment beaucoup d'importance, quoi.
Ah moi si, je l'ai toujours adoré, mais surtout, mais plutôt quand elle est, je dirais quand elle est mordante, quand elle rentre dedans quoi, quand elle a de la personnalité en fait. Là elle est vraiment intéressante.
Le truc c'est que Lois Lane par rapport à Clark Kent, c'est le sexe fort. Et une fois qu'il devient Superman, il reprend sa place d'homme, je trouve. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Tout à fait. Ah oui, non, tu as raison.
Ouais c'est ça.
Et du coup, c'est vrai qu'elle repasse directement en second plan, quoi. Et elle est simplement dominante lorsque elle est en face de Clark Kent, quoi.
Ce qui n'est plus le cas depuis qu'ils sont mariés. Enfin, surtout depuis qu'elle connaît son secret.
Oui, mais tu vois toutes les scènes où, par exemple, ils sont au Daily Planet et que lui il est en Clark Kent, c'est toujours elle qui a l'ascendant, quoi. Puisqu'elle est, c'est la journaliste, par excellence, quoi. Tu vois, c'est la nana qui enfin, elle est vraiment supérieure à lui, quoi, tu vois. Et dès qu'il met son costume, ça y est, quoi, ça inverse les rôles.
Je sais pas trop. En fait, ça dépend quand ils sont en public et dans l'intimité. Je crois qu'il y a vraiment une séparation entre les deux. C'est-à-dire que quand ils sont, voilà, au travail, Clark Kent a vraiment une espèce de rôle à jouer, c'est-à-dire le journaliste un peu empoté, pas très malin, enfin, si malin, mais pas très débrouillard. Alors que quand ils sont vraiment seuls et qu'il peut être lui-même, à ce moment-là, il y a vraiment, je sais pas, une espèce de rapport d'égalité entre les deux, où voilà, ils peuvent échanger et partager quelque chose qui leur est propre. Là, je deviens très romantique, là, moi.
c'est très important, oui, de savoir les attentes de l'autre et tout, ce genre de choses. Non, je déconne.
Donc Denis est un goujat, voilà. Les attentes de l'autre et tout, il s'en fout.
Non mais par contre, pour revenir un peu dans les années 40, effectivement Lois Lane à la base c'était la jeune fille en détresse, mais il y avait quand même
stéréotype.
Ouais, mais il y avait quand même la grosse exception, comme on l'a cité, c'était Wonder Woman qui était, je crois, la seule.
C'était la seule. Ouais. La première super-héroïne en fin de compte.
Voilà. Et puis alors,
techniquement, il y a eu avant, il y a eu China aussi, qui était,
China de Shidevol, ouais.
Donc, quand même, mais,
Et Fantoma aussi.
Et Fantoma. Ouais, toi aussi, t'as trouvé Fantoma.
Ouais. Fantoma. D'accord.
En fait, mais... c'est sur, c'était la maison d'édition Fiction House. Et, c'était une des premières à faire des femmes, de mettre en avant des femmes fortes, justement.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait énormément de dans Fiction House. C'est Will Eisner, je crois, qui a créé cette maison d'édition.
Ah, il semble, ouais.
Et il y avait beaucoup beaucoup de femmes au sein de cette maison d'édition en tant que dessinatrice, coloriste, scénariste. Ah. Et du coup, voilà, ça a engendré des personnages féminins intéressants.
Et scénariste, c'est important parce que quand on regarde, finalement, il y avait pas mal d'auteurs, enfin voilà, d'artistes qui faisaient les dessins en tant que femmes, mais accepter qu'une femme écrive une histoire, ça a été déjà un petit peu plus long.
Donc, tout à fait.
Moi, je pense que justement ça a vachement joué dans l'expansion du rôle des femmes dans les comics. Le fait que ce soit des scénaristes femmes qui travaillent sur les histoires.
C'est clair.
On va peut-être y venir tout à l'heure parce que je voulais juste terminer sur Wonder Woman en disant que il y a un livre qui a fait beaucoup de bruit à l'époque qui s'appelait Seduction of the Innocent.
Oui.
Par Frédéric Vertam.
Le fameux,
Voilà.
Qui a failli tuer les comics.
Et dans lequel quand même donc il était dit que Wonder Woman avec son fouet c'était vraiment une perversion de l'adolescence, que c'était une espèce de
C'était une icône bondage, quoi, en gros.
De toute façon,
le... c'était pas complètement faux.
Oui, le créateur, le créateur s'en est jamais caché. Le créateur de Wonder Woman était, était un mec qui adorait le bondage, etc. Donc, il s'arrangeait toujours pour la mettre ligotée, enfin voilà.
Oui,
le bondage, mais il était vraiment dans une imagerie de la femme beaucoup plus avancée que son époque, et beaucoup plus, je dirais, libérée. On va le dire comme ça.
Oui, libérée sexuellement, oui.
Voilà, parce que lui-même était engagé dans une union, à trois,
c'était un mormon donc.
Voilà, mais avec des femmes qui n'étaient pas des esclaves ou quoi que ce soit, mais qui étaient plutôt même très intelligentes et pas mal de personnalités, donc ça se voyait dans ce qu'il écrivait.
Pas mal de personnalités, c'est-à-dire, c'est pas trop quoi, c'est pas mal.
Un petit peu mais pas trop.
Pas mal pour l'époque, disons.
Non mais juste ce qu'il faut quoi.
Voilà. Alors, et ce qui est drôle aussi, c'est de penser que Joey Shuster et je sais plus comment il s'appelle l'autre créateur de Superman.
Jerry Siegel.
Joey Siegel, voilà. Alors je sais plus lequel des deux. Je crois que c'est Shuster, mais il y en a un des deux qui ensuite, justement, en fait, une fois qu'ils ont vendu Superman à DC, se sont consacrés à la production de bandes dessinées, justement, un petit peu érotique, avec uniquement des nanas qui attachaient des hommes, etc. quoi.
C'était le dessinateur, ça devait être
l'un des deux.
Justement, je sais plus lequel des deux, mais c'est assez drôle parce que ils ont créé le personnage homme fort quoi par excellence avec Lois Lane qui était toujours la femme en détresse, et ensuite ils ont consacré le reste de leur carrière justement dans l'ombre à écrire des histoires avec des femmes fortes quoi, enfin des femmes fortes.
Mais c'est vrai que pour revenir au Comic Code Authority que tu faisais référence, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est arrivé, les femmes qui ont été mises dans les comics étaient vraiment des femmes stéréotypes, quoi. Parce que du coup, fallait plus parler de la sexualité ou ce genre de choses, et ça donnait vraiment des stéréotypes tant dans les super-héroïnes qui ont pu être créées à l'époque que dans les faire-valoir des super-héros, quoi.
Oui, il fallait que les femmes restent à leur place.
C'est ça.
Parce qu'à l'époque, une femme forte représentait une tension sexuelle tout de suite, quoi.
C'est ça. Donc il fallait une bonne femme au foyer, voilà, pour pas créer de problème.
Une Martha Kent, quoi. Qui est l'exemple typique de la femme au foyer. Qui donne des bons conseils, mais qui reste toujours une femme au foyer.
Qui reste à faire des gâteaux.
Ouais, voilà, elle fait tout le temps des tartes. Elle passe son temps à faire des tartes.
Alors que Superman les file les tartes. Oh,
voilà.
Humour
de Bunny.
Voilà. Donc première blague pas drôle du podcast.
Ah bah les autres étaient drôles, alors merci. Bah merci. Non, mais c'est bien, je suis dans mon quota.
Voilà.
Alors, il y a une question quand même qui me vient à l'esprit pour Claire et Kachou. Kachou et Claire.
Oui.
Comment, au fait, vous trouvez la représentation graphique des héroïnes? Est-ce que les costumes vous conviennent? Est-ce que vous trouvez ça ridicule?
Moi, je trouve qu'il y a trop de tissu, moi, quoi.
Il y a trop de tissu.
Non, mais est-ce que, par exemple, vous ne trouvez pas leur capacité pulmonaire absolument incroyable?
On parle de Power Girl, là, c'est ça?
Non, mais en général.
Oui, en
voilà
général,
une, parce qu'on on voit là une ironie où il y a trop de tissu d'ailleurs, Power.
Ça, ça c'est le cas, mais il y a une période dans les années 90 où là, ça partait dans tout les bornés, quoi.
Ouais,
voilà,
faut
avec
Witchblade, quoi.
Oui, par exemple.
Image, quoi. L'époque Image, c'était vraiment ça.
Et paradoxalement, je dois l'avouer, c'est cette période-là qui m'a fait qui m'a fait aller dans les comics.
Comme quoi, c'est efficace.
Je pense que c'est l'âge. Hein. Je pense que c'est l'âge. On s'est tous tournés vers les comics à cette époque-là, à peu près.
Ouais, c'est possible. Oui.
Parce que nous sommes tous entre vieux hein, aujourd'hui, quand même.
Bah, moi, les premiers comics que j'ai lus, en fait, c'était pas du tout des super-héroïnes. Donc, j'ai pas du tout été attiré par les femmes dans les comics, justement, assez bizarrement.
Oui.
Après, c'est vrai que je me dis que ça fait partie du jeu. Enfin, voilà, c'est un univers qui était quand même très masculin, qui se féminise plus, mais donc voilà, c'est normal que les nanas soient représentées comme avec des bombes à gros seins. Enfin, voilà, ça me paraît logique, quoi.
C'est limite, ça s'est calmé, hein. Ça va mieux, je pense que de nos jours, on est passé à autre chose.
Bah, on remet des vêtements. Regarde Wonder Woman maintenant, elle a plus de vêtements.
Alors le fameux costume.
Moi j'aime bien le nouveau. Hein.
Ouais, moi aussi j'aime bien.
Après il y a un phénomène intéressant aussi, c'est que une grosse bombasse qui arrive à faire des super trucs, qui arrive à sauver le monde et tout ça, moi je trouve que ça donne une bonne image aussi pour les filles qui sont dans la même situation, on va dire. Le fait d'être une bombasse, c'est de se dire, bah, voyez, on peut faire des choses même en étant super sexy, quoi.
Oui,
en fait, les comics, c'est pas mon cas, donc c'est un espoir pour Paris Hilton.
Exactement.
Je suis blonde et j'arrive à faire des trucs.
C'est ça.
Paris Hilton et grosse bombasse, ça va pas tellement ensemble.
Moi, je suis d'accord avec Bonnie, là.
Non, mais j'ai trouvé Paris Hilton parce que c'est l'archétype de la cruche. Oui. Donc, voilà. Et que généralement, la bombasse est aussi stéréotypée et cruche.
Mais non, parce que les super-héroïnes, généralement, sont intelligentes.
Paris Hilton, c'est plutôt la méchante, quoi, je dirais.
Si mais les méchantes aussi, les grosses, hein.
Oui, c'est sûr, mais bon.
Oui, mais une cruche, ça sert à servir à boire, et regarde Frank Whiteley, c'est pareil, quoi.
Non, mais c'est pas possible, Benny. Tu vas arrêter avec ce verre.
Ça suffit, un verre de trop, hein.
Ça, mais bon, on revient pas sur moi, s'il vous plaît.
Et par contre, moi, je pense pas qu'il y ait une héroïne cruche là. Enfin, je.
Pour moi,
il y a pas d'héroïne cruche.
Si, Squirrel Girl.
Hein?
Si, non, elle est innocente, on va dire pas comme ça.
Elle est jeune. Mais ouais.
C'est des vraies héroïnes, quoi. Vraiment.
Bah, qu'est-ce que vous pensez, par exemple? Alors, je sais pas si vous connaissez bien le personnage, mais Harley Quinn.
Ah, moi, j'aime bien Harley Quinn.
Bah, elle est complètement cinglée.
Ouais, mais ça n'empêche pas trop qu'elle l'aimait quand même. Voilà. Je veux dire, c'est comme le Joker, il est complètement cinglé aussi.
Exactement.
Donc voilà, c'est de toute façon, c'est le pendant féminin du Joker, Harley Quinn.
Et alors, justement, la première héroïne que tu as à laquelle tu t'es intéressée, Kachou, c'était qui?
La première héroïne Supergirl. Ouais.
D'accord, Supergirl.
En voilà une belle cruche.
Voilà.
Non mais c'est vrai, enfin je veux dire, quand on regarde sa dernière série, bon, c'est parce qu'elle est jeune, non mais elle est jeune dans sa dernière série, la série actuelle, mais elle est quand même assez cruche, elle découvre, etc. Et il y a cette candeur qui fait que le personnage en devient attachant. Mm-hmm. Donc on cherchait une héroïne cruche, en voilà une, quoi.
Voilà.
Mais il y a de plus en plus de séries aussi avec des héroïnes, hein, ces 10 dernières années, Birds of Prey, enfin ça existait
moi,
déjà.
J'allais dire le contraire, hein.
Ah bon?
J'ai plutôt l'impression qu'en fait la grande période avec des séries portées par des femmes, c'était les années 90. Puis ça s'est complètement cassé la gueule au début des années 2000, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus grand chose.
Oh, il y a quand même eu Spider-Girl, il y a eu Alias. Alias, hein, Benny, ça fait pas mal de séries avec des
non,
femmes.
Mais est-ce qu'on voit vraiment dans les meilleures ventes
Ah oui, alors ça c'est une autre histoire.
Oui, c'est vrai, parce que par exemple Zatanna et Power Girl, ça marche, mais ça marche pas tant que ça en fait.
Non, mais d'accord. Donc, moi je pense qu'il y a eu il y a eu pas mal de séries créées autour des super héroïnes, mais il n'y a pas eu.
Il n'y a pas le public derrière.
Il y a pas, oui, voilà, c'est ça. Ce qui manque, c'est les trois quarts du temps, c'est le public pour les soutenir. Alors Pourquoi? Bah parce que à mon avis, de toute façon, les comics sont pensés pour un public, enfin pour un lectorat largement masculin.
Masculin, hein, oui, bien sûr.
Quoi qu'il en soit.
Ah mais oui.
Et du coup, bah même s'ils aiment bien voir des nanas, ils se reconnaissent pas forcément dans ces personnages. Et, voilà, ils sont moins captivés, moins intéressés.
Bah c'est clair que en lisant un Zatanna, enfin je m'identifie absolument pas au personnage. C'est impossible.
Oh, arrête,
impossible.
Ça va parler avec à ta partie féminine qui aime porter des barésines.
Ça va partir non, on va dire, si je voulais être un peu graveleux, ça va parler à ma partie féminine qui se trouve plutôt vers le milieu de mon corps, tu vois. Voilà, enfin je veux dire, c'est pour ça que plus jeune, on regarde des Witchblade ou ce genre de choses. Donc, avec l'âge, tu vas pas forcément voir les mêmes choses, mais...
Danger Girl.
Ouais, enfin ça tu vois, j'ai un truc que j'ai jamais lu par exemple, mais...
Moi ça m'a bien fait marrer.
Ah ouais, moi j'aimais beaucoup, ouais.
Voilà, enfin je veux dire, quand je lis un Zatanna, je le lis pas forcément pour l'héroïne, je le lis surtout pour l'histoire. C'est plus l'histoire qui va m'attirer que le personnage en lui-même, alors que quand je vais lire un Green Lantern par exemple, c'est plus les personnages eux-mêmes qui vont me donner envie de lire. Je sais pas si vous voyez cette différence.
Ah ouais. Carole Ferris, moi, elle m'intéresse bien. Hein. Surtout un Starfire quand même.
Là, tu aimerais le spin-off sur Carole Ferris.
Voilà.
Réciproquement, justement, Claire et Katchou, est-ce que vous trouvez des femmes sexy, enfin, dans les comics, quoi, est-ce qu'il y a des femmes vraiment que vous trouvez sexy et des hommes?
mais moi, je trouve que l'univers de Batman rend vraiment les femmes sexy.
Exactement. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment. C'est vraiment un univers qui met en valeur les femmes. Hein. Mm. Autant au niveau de l'histoire, du scénario, et puis même au niveau du dessin.
Ouais.
Et sans faire référence justement à ce qui se passait dans les années 90 avec les nanas, avec des gros lolos.
Oui, voilà.
Vraiment à l'extérieur. Non, là c'est vraiment des histoires de qualité.
Elles se suffisent à elles-mêmes, quoi, vraiment.
Exactement.
Enfin, c'est des femmes qui sont à la fois fortes, indépendantes, belles aussi physiquement. Enfin, vraiment.
Je dirais que c'est parce que l'un des thèmes de Batman, c'est l'auto-accomplissement, en fait. Hein. C'est vraiment dépasser ses limites, réaliser son potentiel. Donc effectivement.
Et aussi, Batman est peut-être le seul super-héros qui est voué à ne jamais se marier, finalement.
Ouais.
Ça ne peut jamais rentrer dans une relation durable. Donc finalement, toutes les femmes qui croisent.
Moi, je l'ai pas vu comme ça, mais ouais, pourquoi pas.
Non, mais ça détruirait vraiment le personnage, parce que il est dédié.
Moi, je pense pas les femmes de l'univers de Batman comme avec Batman, si tu veux.
Pour moi, forcément liées à lui.
Voilà, je les après elles peuvent être liées ou pas à lui, mais je les pense vraiment comme entité propre, vraiment.
Indépendante.
Justement à.
Même pour Catwoman.
Ouais, Catwoman, elle a une histoire vachement proche avec Batman. Enfin, elle est perturbée complètement.
Oui, mais elle a sa propre histoire. Pas...
Mais voilà, elle a aussi sa propre vision des choses et tout. Donc, contrairement justement à l'univers de Superman, où j'ai un peu l'impression que voilà, on colle des femmes dans l'univers de Superman, mais finalement, si t'enlèves Superman, ces femmes-là peuvent pas exister toutes seules.
Ouais, ça c'est sûr.
Donc.
Et justement, Catwoman est peut-être sauvée par ça parce que elle ne va jamais justement franchir le pas et jamais former un vrai couple avec Bruce Wayne et du coup elle sera jamais écrasée entre guillemets par la présence de.
Oui.
Avec Catwoman, c'est une relation coup d'un soir quoi, à chaque fois.
Hein. Pour les deux, hein.
Bah, de toute façon, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il suffit de relire Batman Inc. Dans le deuxième épisode, non, c'était dans le premier d'ailleurs. On nous le cache pas que ils ont passé une petite nuit à l'hôtel et voilà.
D'ailleurs,
dit même clairement, d'ailleurs.
Catwoman, c'est le premier comics avec une héroïne que j'ai lu, vraiment. Que j'ai lu et que j'ai apprécié. Parce que j'ai aimé justement ce côté femme indépendante qui est vraiment toujours sur On the Verge. J'arrive pas à...
c'est très bien pour sortir.
Voilà,
le choix du mot est magnifique. Le choix du mot est magnifique.
Non, mais je sais.
Oui.
Mais moi, je regretterais toujours la disparition de l'ancien costume de Catwoman, celui qu'elle avait dans la série
avec la
des années 90. Ah non, pas le premier, celui qu'elle avait dans les années 90, le costume violet, quoi.
Sans la ridicule.
Ah ouais, non, le nouveau costume, c'est pas top. Non.
Je trouve le nouveau costume pas beau, quoi.
C'est les lunettes,
beaucoup plus sexy. Ah ouais, non, les lunettes, non, ça le fait pas, quoi. Pourquoi pas un masque à gaz aussi, quoi. Mais alors c'est marrant puisque justement alors l'univers de Batman on a comme vous disiez des femmes fortes
Ouais.
Mais tu parlais d'Harley Quinn tout à l'heure, Benny, et Harley Quinn fait partie de ces personnages qui sont devenus des personnages ultra importants et en tant qu'identité. Et on a des personnages comme René Montoya, comme Harley Quinn, qui finalement sont arrivés dans le comics et ont aujourd'hui une place super importante, mais qui sont arrivés grâce à l'animation. Puisqu'Harley Quinn est apparue...
Je sais pas si... En fait, je vais parler du personnage de René Montoya. Elle a vraiment réussi à s'imposer grâce à Greg Rucka, hein, durant, parce que le
mec
a quand même travaillé le personnage pendant quelque chose comme 11 ans. Donc c'est vraiment pour ça qu'il a réussi à l'imposer petit à petit. Donc,
Mais c'était à la base un personnage.
Avoir d'importance avec la saga No Man's Land.
Oui. Mais c'était quand même un personnage au départ créé pour l'animation. Ils l'ont inséré dans le comic juste avant que le dessin animé commence, mais au départ c'était un personnage prévu uniquement pour la série télé.
Oui, c'est vrai, oui.
Et d'ailleurs, c'est un cas, enfin, c'est beaucoup plus un cas féminin de personnages qui viennent de l'animation qui sont ensuite insérés dans la continuité que qu'un cas avec des personnages masculins.
Ah bah c'est sûr que Bullock est super sexy, hein.
Mais
parce que, mais il me semble que Bullock vient aussi du dessin animé et qu'avant il n'était pas.
Il me semble, oui.
Ouais. Mais on a donc là le cas d'Harley Quinn, on a le cas de René Montoya, mais on a aussi le cas de Livewire qui est un ennemi de Superman, qui est apparu dans le dessin animé de Superman avant.
Mais je pense que c'est récemment, tout simplement parce que Bruce Timm aime créer beaucoup de personnages comme ça, féminins. Il aime bien s'amuser avec ce type de personnages. De toute façon, Harley Quinn et Poison Ivy, ça fait partie de ses personnages préférés.
Mais si tu regardes, on a aussi le cas de Chloé, tout récemment, Chloé Sullivan, de Smallville.
Ouais,
mais on a aussi X-23 chez Marvel.
C'est vrai.
Qui
est
aussi un personnage féminin et des personnages masculins qui viennent d'un autre univers et qui sont ensuite intégrés dans la continuité. J'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus rare. On le fait plus avec des versions
féminines. Mais c'est peut-être aussi parce que quand on fait des adaptations en série ou en film, comme à la base dans les comics, il n'y avait pas forcément de personnages féminins forts. Et qu'aujourd'hui dans les séries on essaye quand même de mettre de la parité un petit peu homme-femme, un peu voilà. Peut-être que du fait qu'ils ont créé ce personnage-là et que finalement c'est quelque chose qui reste et que les fans aiment, bah ils se disent pourquoi ne pas l'intégrer aussi aux comics parce que à l'époque on l'a pas fait, mais que maintenant qu'il est là, autant s'en servir.
Oui, moi je pense comme toi. Hein. Alors,
Non mais c'était une question que je me demandais, je voulais avoir votre avis aussi là-dessus.
Mais je dirais que en fait toutes les séries animé que tu cites, là, c'est quand même des séries qui, à leur sortie, sont des séries récentes. C'est-à-dire que c'est souvent des séries des années 90, début des années 2000. Donc déjà, où il y avait, je dirais, quand même pas mal d'avancées dans le statut de la femme dans la société.
Complètement.
C'était plus dans les années 40, quand même. C'est des séries aussi qui ont eu quand même un certain succès. Donc c'était peut-être pour ça que ça a incité à pousser, à intégrer ces personnages dans les séries, en se disant, on peut capitaliser là-dessus et...
Ça me paraît inconcevable d'insérer un personnage d'une série qui n'a pas eu de succès.
Voilà. C'est un peu difficile. C'est
un peu tirer une balle dans le pied, quoi.
Ouais.
Un truc qui marche pas, tu le remets dans la BD.
Et vous avez remarqué qu'on a quand même parlé énormément des femmes qui sont plutôt chez DC, mais pour l'instant, on n'a pas parlé du tout de femmes de chez Marvel.
On en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que la place de la femme est plus importante chez DC que chez Marvel. La place de la femme dans plusieurs statuts différents. Chez Marvel, j'ai l'impression qu'elles ont un peu toutes le même statut.
Bah, déjà, la création, enfin la première femme forte quoi chez Marvel, hein, il a fallu attendre les années 60, on va dire. Quoi.
Moi, je dirais les années 70 avec les X-Men. C'est vraiment...
t'as quand même Susan Storm avant.
Mais elle était un peu, série, même malgré ses pouvoirs, elle était un peu cantonnée dans le rôle.
Oui, c'était aussi un faire-valoir.
On se rend bien compte d'ailleurs parce que c'était Invisible Girl.
Voilà.
C'est après qu'elle est devenue Invisible Woman. Ouais, donc on voit bien déjà que voilà, c'était Girl.
Et puis parlons du fait de la rendre invisible, quoi.
Voilà, je crois même à la base elle avait pas vraiment son pouvoir de champ de force ou
non, justement c'est quand elle est devenue une Invisible Woman qu'on l'a pris un peu plus au sérieux, tu vois, et qu'on s'est dit oh tiens,
en fait,
allez.
L'idée de femme forte chez Marvel, c'est vraiment avec les X-Men que c'est arrivé de Chris Claremont, hein, parce que lui il a vraiment une vision des femmes qui est très avancée pour l'époque et voilà le modèle jeune femme en détresse, ça l'intéressait pas, c'était plutôt jeune femme très forte avec des pouvoirs qui arrachent la tête et voilà.
Alors justement, un des points assez importants, justement, les femmes fortes sont principalement des méchantes. Tu remarqueras. puisque Phoenix a acquis son statut de femme forte en tant que Dark Phoenix.
Si tu regardes Jean Grey avant, quand même écrite par Claremont, elle dépotait pas mal, hein.
Ah, pas beaucoup, on la voit très très peu avant qu'elle devienne le Phoenix.
Ah si, si, moi je sais pas si tu te souviens de la scène dans la navette spatiale quand il rentre dans l'atmosphère, dans l'épisode 100 ou 101,
oui.
Et qu'elle rembarre Wolverine, mais bien comme il faut.
Oui, mais où elle est vraiment devenue femme forte, c'était à partir du moment où elle a commencé à virer du côté obscur, qu'elle est rentrée dans l'Hellfire Club, tout ça quoi.
Mais il y a aussi Storm ou d'autres. Hein, donc,
Vous avez oublié une femme forte dans l'univers Marvel, excusez-moi, mais c'est Tante May.
Et oui.
Non, mais franchement, hein, avec toutes les épreuves qu'elle subit, etc.,
oui,
elle est toujours...
Ouais, mais là c'est plutôt...
Toutes
là,
les épreuves qu'elle nous fait subir.
Franchement, Tante May, c'est un peu le running gag, quoi. Enfin,
parce que... au fur et à mesure du temps, surtout à partir des années 80, c'est vrai... elle a vraiment subi des épreuves et elle arrive toujours à s'en sortir la tête haute. Enfin, vraiment, c'est vraiment une femme super courageuse.
Sa 20e crise cardiaque.
Mais c'est plus...
avec un plan de Spider-Man.
Plus des deuils. Elle a
quand même eu sa relation avec Doc Ock pendant un moment. Quoi.
Mm-hmm. Ouais, ça, c'était
On sent la grande intelligence de la femme, là, quand même.
Enfin, elle ne savait pas que c'était Docteur Octopus.
Ouais.
Oui, mais là encore une fois, tu vois, c'est pas un personnage qui peut se suffire à lui-même. T'enlèves Victor, voilà, hein.
Sauf quand elle met son armure et qu'elle devient Iron May. Rappelez-vous un certain What If.
Tu vas pas faire un comics centré sur Tante May.
Sauf si tu veux pas le vendre. Là, oui.
Ou alors tu le mets en supplément dans notre temps magique.
C'est déjà arrivé qu'il y ait des backups uniquement sur Tante May. Et à un moment, elle travaille dans un truc et puis il y a un mec et puis elle lui fait un croche-pied.
Là c'était ouf, il y a de l'action.
Il y a eu Trommel aussi.
Il y a eu quoi ?
Trommel.
De Mark Millar. Je cherchais au fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce dont je te parlais, Steve, il y a quelques jours en off, et je trouvais plus le nom de la série. Effectivement, c'est un truc qui est carrément hors continuité, considéré comme hors continuité, parce que ça suggère que, justement, elle a eu une jeunesse un petit peu...
Ça raconte un petit peu la jeunesse sulfureuse de Tante May.
ça peut être intéressant.
Voilà.
Non, mais je crois que l'idée, c'était qu'en fait, c'était la vraie mère de
Victor,
et qu'elle l'avait abandonnée.
Ouais. Mm-hmm.
N'importe quoi.
Ouais.
Et l'autre, n'importe quoi.
Non, mais regardez les femmes fortes, mais principalement chez Marvel. Hein. Les femmes fortes, c'est Elektra, qui a une moralité quand même sacrément douteuse. C'est Typhoïde Barry, qui est du mauvais côté de la barrière.
Mmh. Alors justement, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de Marvel, il y a peut-être eu moins de scénaristes femmes aussi chez Marvel que chez DC. Et tu viens de nommer Typhoïde Barry, qui est une création d'Anne Senti.
Oui, mais on a Anne Senti, on a Louise Simonson aussi.
Elle a fait plus... Je voudrais pas dire de bêtises. Elle a pas fait plus de taf chez DC que chez Marvel.
Non.
Elle était éditrice, il me semble, chez
nous. Louise Simonson, c'est quand même X-Factor, c'est New Mutants, c'est Power Pack.
Ouais.
C'est quand même des grosses séries, surtout vachement de longévité, quoi. Anne Senti est surtout connue chez Marvel pour Daredevil, un run assez long quand même de 87 à 91, et puis la co-création de Longshot. Voilà. Après, chez DC, Louise Simonson a fait Man of Steel et Steel, mais elle est restée moins longtemps.
Et il y a eu Gail Simon.
C'est beaucoup plus récent.
Qui a fait quand même beaucoup pour...
A travaillé chez Marvel aussi.
Les personnages féminins.
Qui a travaillé sur Deadpool et puis Agent X.
Malheureusement pour elle.
Et après, elle est partie chez DC.
Ouais. C'est très bien.
Elle n'en est jamais revenue d'ailleurs. Et avant, elle travaillait sur les Simpsons aussi, sur les Simpsons comics.
Et quand même, peut-être dans les personnages féminins de chez Marvel, il faudrait peut-être quand même parler de Miss Marvel.
Ou pas.
Quand même.
Qui ça?
Je veux dire, voilà.
Non, mais il y a quand même des personnages féminins du bon côté de la barrière chez Marvel, mais il faut attendre plus tard, je pense. On a des personnages comme Miss Marvel, comme tu dis, on a Spider-Woman, on a She-Hulk, mais ce sont des personnages qui sont plus 70-80, quoi.
Mm-hmm.
Alors
oui,
chez DC, on avait quand même franchi le pas depuis longtemps.
Ouais. On a Wasp aussi.
Ouais.
La guêpe.
Ouais,
la guêpe qui se faisait battre par son mari pendant des années dans les histoires.
Mais qui était à l'époque une femme forte, puisqu'elle elle tenait tête à son mari quand même, mais elle était surtout un faire-valoir de Hank Pym. C'était pas... Enfin, je veux dire, une histoire avec la guêpe en solo, ce serait pas vendu, quoi.
Ça montre, tu vois, même quand on fait des super-héroïnes, pas juste une tante May, ou, enfin, voilà, même une super-héroïne, c'est un faire-valoir de l'autre, quoi. Tu vois, chez Marvel, il y a quand même moins cet aspect femme libérée et qui suffit à elle-même.
Chez Marvel, il faudra attendre, tu en parlais tout à l'heure, Bunny, Alias par Bendis avec Jessica Jones, quoi.
Oh non, non, quoi, pas, non, attends, Alias, c'est quand même vachement récent. Mais je veux dire, il y a eu un espèce de prise de conscience, je pense, dans les années 80, enfin même à partir du moment où Claremont est arrivé sur les X-Men, les femmes ont vraiment changé, quoi, chez Marvel. Et par exemple, Mary Jane prend un tournant radical dans les années 80, lorsque t'en apprends enfin plus sur son histoire, quoi, sur son adolescence, etc., tu comprends vraiment le personnage. Alors qu'avant, c'était vraiment la party girl, quoi. Et voilà, ça, alors là, tout s'écroule. Voilà.
C'était chez qui?
Chez moi.
D'accord.
Il en a fait tomber, je ne sais quoi, tellement ça l'a choqué, ce que je viens
de dire. Ça va dire un bout de casserole.
Bah, après, c'est vrai que on a aussi les autres maisons. Je veux dire, on a voilà Image, Dacos, Vertigo, même si bon, Vertigo c'est DC, qui ont mis en avant d'autres styles de femmes. Comme par exemple, enfin, je veux dire, moi je pense par exemple à Vampirella.
Oui, mais oui.
Voilà.
Donc publié dans aucune des maisons que tu
as citées. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai hésité à le dire.
C'est pas grave.
voilà, où là encore, c'est un autre type de personnages féminins mis en avant, où là par contre, on n'hésite pas justement à jouer sur le côté aussi sexuel, mais enfin, c'est on le voit là pour une fois, quoi.
Oui, mais c'était à l'époque dans des maisons plus libres.
Oui. Mais
Vampirella était surtout un objet sexuel.
Oui.
Qui était forte, oui, mais c'était surtout pour faire fantasmer.
Parce que ouais,
Sonia, après, c'est un vampire, hein.
C'est
un vampire, donc
oui.
Les vampires ont cette ils ont toujours cette dimension sexuelle, donc forcément Vampirella si elle l'avait pas eu, ça aurait pas été cohérent, quoi.
Oui, mais tu vois, je pense que c'est un personnage qui est moi en tant que femme, je trouve que c'est un personnage qui est bien. Je pense que voilà, on pourrait avoir des exemples de, je sais pas, enfin j'ai pas d'exemple là justement, mais de personnages féminins ou avec une sexualité comme ça exacerbée qui soit limite tu vois vulgaire. Je trouve qu'avec Vampirella, non quoi.
Non, elle n'est pas vulgaire, elle est sexy, elle n'est pas vulgaire.
Non, c'est pareil.
Ouais, mais New X-Men 116, la couverture, c'est tout ce que je dirais. De la sexualité.
Bah, Emma Frost numéro 1, la couverture.
Voilà, toutes les couvertures
non, mais,
de Gregor.
Non, mais tu vois, mais franchement, moi je trouve qu'elles sont belles. Enfin, je veux dire, ça fait partie du personnage aussi. Après, enfin voilà, en tant que femme, je me sens pas choquée de voir des couvertures comme ça, par exemple.
Je te rassure, nous non plus.
Oui, mais donc en tant que femme aussi, Sam, hein, ça te choque pas.
Ça ne choque pas ma partie féminine.
C'est ça.
Qui se situe au même endroit que la mienne, c'est ça.
Non, mais Emma Frost fait partie aussi de ces personnages qui sont totalement, enfin qui dominent totalement leur conjoint, quoi. Tu regardes Cyclope et Emma Frost, c'est Emma Frost qui domine totalement Scott Summers.
Il y a une très bonne couverture de K.R.A. Andrews sur Xenogenesis, là, la dernière mini de Last of Us X-Men. On voit Scott Summers à quatre pattes. Et ma frotte sur lui.
A-t-il une boule dans la bouche?
Ah, je ne sais pas, attends, je vais regarder.
Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il y a la sexualité, les femmes assument cette part de sexualité. Ce ne sont pas des objets, ou alors si elles décident d'être des objets, c'est qu'elles le veulent. C'est vraiment des femmes, voilà, qui sont... elles assument tout ça, quoi. Comme tu dis, dominatrices, quelque part. Mm-hmm. Donc...
Mais justement, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus récent, je trouve... Quand on reprend l'histoire du comics en général, hein, c'est-à-dire depuis les années 40, quoi, c'est vraiment quelque chose d'assez récent qui va avec l'évolution de la société, bien évidemment.
Oui,
mais,
voilà, ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Mais faut voilà, voir si l'héroïne peut être un fantasme pour le lecteur, mais aussi l'expression aussi de ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire de l'évolution de la femme. Donc ça dépend aussi, voilà, de comment, qui la dessine, qui l'écrit, ça varie, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs.
Pour faire un parallèle avec la vie actuelle, si tu regardes bien, les costumes des super-héroïnes sont assez proches des costumes de scène des femmes qu'on voit dans l'équipe vidéo et tout ça, quoi. Donc finalement, on n'est pas si loin. Je pense que c'est plutôt un phénomène récent, quoi.
Mm-hmm.
Oui, bah de toute façon, d'ailleurs, avant, les costumes, ils étaient pas bien recherchés, quoi, les costumes des héroïnes.
Non.
C'était assez simple, quoi. C'était des grandes bottes, enfin une tenue assez moulante pour faire sexy, mais là maintenant, quand tu regardes les tenues d'Emma Frost, c'est limite des créations de
couturier.
Ouais,
non,
voilà,
mais c'est vrai. Ouais.
Tu parlais de costumes de scène, on a quand même oublié de citer un personnage femme forte, Dazzler.
Oh, Christier, ne voilà, me rappelle pas cet épisode.
Dazzler, magnifique. Par contre, il y a un truc, moi, qui me choque un petit peu, c'est que ces dernières années, il y a aussi la libération sexuelle qui joue sous toutes ses formes, mais on associe quasiment automatiquement femme forte avec lesbienne.
Ouais, non.
On a l'exemple de Batwoman.
Ouais.
Ouais.
On a l'exemple de René Montoya aussi.
Mm-hmm. Mais je vois pas.
Mais ce sont des femmes fortes, des créations relativement récentes.
Mm-hmm.
Et du coup, pour Batwoman, c'était clairement dit dès le départ du personnage. Mais René Montoya est devenue lesbienne ensuite.
Que c'était révélé dans un article.
Voilà, une sorte de façon d'affirmer que c'est une femme forte, indépendante, sûre d'elle.
Qui n'a pas besoin d'homme.
Voilà.
Et pourquoi pas? Non, je plaisante.
Mais justement, ton avis là-dessus est aussi important, Kachou, mais, j'ai l'impression, je trouve que c'est dommage d'associer automatiquement femme forte et lesbienne.
Je le vois pas comme ça. Du tout.
Ouais,
parce que même si Batwoman était hétérosexuelle, elle serait aussi une femme forte, je pense. Par rapport à son vécu, à son histoire dans le scénario de Batwoman et Magic. Elle n'a pas besoin d'être lesbienne pour être
forte. C'est un détail de sa personnalité.
Ouais. Pour Montoya, c'est pareil. Hein. Parce qu'en plus, pour René Montoya, on le sait pas à la base qu'elle est lesbienne. Donc je pense pas que ça a un rapport. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Et pourtant, hein, j'ai demandé à Wonder Woman la semaine dernière, elle m'a aussi confié qu'elle préférait largement les femmes de son île.
Ah oui, mais ça, c'est un sous-entendu.
Non, ça c'est mon délire personnel.
Non, c'est un sous-entendu qui a été très fort pendant très longtemps.
Oui, bah oui.
Et je me souviens d'ailleurs d'un épisode de Wonder Woman, c'est par Greg Rucka, c'était un de ses premiers, et où elle se trouve en fait devant un public et... elle annonce déjà dès l'origine, je ne m'aborderai pas ma vie privée, et non, je n'ai pas de petite amie en ce moment. Il y a des mains qui se lèvent, et avant qu'une question se pose, non, je ne recherche pas de petite amie aussi.
Et il n'y a pas d'ailleurs un gros sous-entendu avec, alors je sais plus, c'est peut-être dans 52, Harley Quinn qui se retrouve justement sur l'île de Wonder Woman avec... Non ?
Poison Ivy, non ?
Non, je sais plus.
Un sous-entendu entre Harley Quinn et Poison Ivy, ouais.
Ouais, voilà.
Il y a toujours eu ce sous-entendu, ouais, c'est vrai.
Je sais même pas si c'est vraiment sous-entendu, c'est vraiment quasiment affirmé.
Oui, enfin, on sait pas. Enfin, j'ai rien lu. Comme quoi,
Peut-être une relation bisexuelle, après tout.
Après, voilà, du côté relation lesbienne des héroïnes des héroïnes de comics, je pense que c'est peut-être aussi pour parler au fantasme masculin. Et de dire elles sont fortes et tout, mais voilà, elles sont aussi lesbiennes, donc voilà.
Moi, sincèrement, j'espère pas.
Moi, j'ai jamais ressenti comme ça.
J'espère pas qu'on va se limiter à ça, quoi. Pour faire venir de nouveaux lecteurs, on va faire des héroïnes lesbiennes, quoi. Ça serait triste. Mais j'espère qu'au contraire, on est en train de progresser et aller dans le sens de la tolérance plutôt que reculer.
Parce que finalement, une femme forte. Hétérosexuel, est-ce que ça plairait réellement à un homme? Je veux dire, avoir quelqu'un, tu vois, qui te domine.
Ça, il faut poser la question au garçon.
C'est ça.
Il faut demander aussi à Luke Cage.
Est-ce que c'est vraiment une question de domination?
Oui, c'est pas une question de domination. Je pense que, tu vois, Catwoman, moi, je la trouve super je lis ses comics avec grand plaisir, et pourtant, c'est une femme forte à mon
si elle nous écoute, ça lui fera super plaisir, en tout cas.
Ouais, c'est vrai. Mais je lui enverrai un petit message tout à l'heure. Non, mais c'est juste pour illustrer le fait que t'as pas, enfin, pour moi, elles ont pas, voilà, c'est pas une question de domination, quoi, c'est vraiment, c'est une question d'affirmation, et de, la personne peut se suffire à elle-même, en fait, j'ai envie de dire.
Non, mais je pense que les comics, vu qu'ils évoluent, en fait, c'est l'un des seuls médias en bande dessinée qui évolue avec son temps. Là, maintenant, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, il est clair qu'on va voir de plus en plus, peut-être, de personnages homosexuels, enfin voilà, qui
s'assument. Ça va dépendre aussi de la mentalité des États-Unis.
Mais oui, mais il y a eu, quand même, aussi, il faut voir aussi du côté des hommes, il y a eu quand même pas mal de personnages homosexuels. Par exemple, il y a Richter dans X-Factor. Je pense que c'est nouveau, ça n'a pas été dit dans les années 90. Mmh.
Non, il y a toujours une relation étrange entre Richter et Shatterstar, et Peter David a fait exploser le truc au grand jour, et d'ailleurs, en ayant lu la VO, il y avait des courriers des lecteurs, il y a quand même un gars qui dit, mais c'est inadmissible, enfin, on voit à quel point les États-Unis... Non, on voit à quel point les États-Unis ont une mentalité vraiment...
conservatrice.
Oui, voilà. Ils sont vraiment en arrière par rapport à d'autres pays au niveau de l'acceptation.
Non, pas forcément, parce que sinon Batwoman n'aurait jamais vu le jour non plus.
Mais on voit la polémique, que ça a créé quand même.
Moi j'ai bien quand même ressenti que DC freinait des quatre pieds comme c'était pas permis sur cette histoire.
Et c'est quand même freiné parce que malgré plus facile de faire accepter la manière une relation lesbienne qu'une relation homosexuelle entre deux hommes.
Imaginons que demain,
Parce que c'est principalement les lecteurs masculins aussi.
Attends. Oui. Justement, imaginons que demain, un scénariste dise, voilà, Wolverine est homosexuel. Est-ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner?
Déjà, ça serait contre toute la continuité de ces 50 dernières années, on va dire, vu le nombre de films.
Mais ça, de toute façon, ils sont pas ça prêt. Hein. Voilà.
Je
veux dire,
je pense que si Wolverine était déclaré homosexuel, ce serait un gros problème. Ça fausserait un gros problème dans les partout, quoi. On en parlerait partout. Notamment en plus parce que c'est un personnage qui a eu droit aux honneurs du cinéma, etc. Ouais. Et donc, ça créerait réellement une grosse polémique. C'est comme annoncer que Batman serait gay, quoi.
Non, mais il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il soit gay, Wolverine.
En Honor Star, déjà.
Oui.
Oui, justement, oui, j'allais nommer
aussi. Il faut trouver un intérêt aussi à ça.
C'est clair.
Même du côté des auteurs, ça pose des problèmes pour eux. Par exemple, son nom m'échappe. Le dessinateur. Aidez-moi, pitié, le mec qui a dessiné Astonishing X-Men.
Nous une série.
Le mec qui a dessiné Astonishing X-Men, le deuxième run avec Grant Morrison.
Phil Jimenez.
Oui, voilà. Qui est homosexuel et qui l'a révélé publiquement, ça lui a causé énormément de problèmes. Mm. Quand je vois que c'est dessiné par Phil Jimenez, tu vas sur certains sites, quand tu vois dans les commentaires, ah non, j'achèterai pas un comics de cette tapette.
Ah,
ben
ça,
ouais. Ben ça, oui. Écrit comme ça, hein, c'est du littéral, quoi. Enfin, c'est quand même grave.
Eh oui, c'est grave. N'en parle pas.
Alors, le pire de tout, c'est que c'est des lecteurs des X-Men qui disent ça.
Mais oui, c'est
depuis
voilà.
Depuis des années, ils sont fans des X-Men.
Eh oui. Ils ont pas dû comprendre le message non X-Men, voilà. Et oui.
Ah bon, ça parle de tolérance, les X-Men. Mm-hmm.
Je crois que c'était juste pour des mecs qui se cassaient la gueule, moi.
T'avais pas relis Morrison, tu vas voir, tu vas plus le comprendre de la même façon.
Moi, j'ai envie de faire Ding Dong.
Non, arrête.
Non, arrête.
Donc... On va parler peut-être un peu aussi des auteurs, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a d'autres auteurs dont on n'a pas parlé, notamment Marie Séverin, qui a vraiment œuvré pour Marvel pendant de très longues années, qui est une des premières femmes reconnues réellement dans le milieu des comics. Mm-hmm. Dans les années 60, elle travaillait chez Marvel, elle a dessiné du Doctor Strange, du Hulk, du Spider-Man, du Iron Man, du Daredevil, enfin la liste est longue, quoi. Et puis maintenant, on a d'autres auteurs, des auteurs emblématiques comme Gail Simone, bien sûr, et Amanda Conner aussi.
Ah oui, moi j'aime beaucoup.
On a Laura Allred aussi, qui est coloriste et qui travaille principalement qu'avec son mari.
Ouais.
C'est assez fréquent ça, les couples dans les...
Oui.
Dans les comics.
Rachel Dodson.
Mmh. Voilà.
J'y pense aussi.
Il y a Catherine Immonen aussi qui...
Mmh. Aussi, oui. Mmh. Puis bon, le cas Louise Jones Simonson, quoi.
Mmh. Oui, bah oui.
Évidemment.
Joe Quesada.
Avec Madame Quesada.
Oui. Il a travaillé avec elle au début du. Au début de Marvel Knights. Elle était éditrice là-bas.
Eh ben tu vois, hein.
Comme quoi, même quand c'est une connerie en fait.
Et puis, voilà, et puis, en fait. Et puis on a Karen Berger aujourd'hui, qui est quand même responsable chez Vertigo.
Oui, tout à fait.
Son époux travaille là-bas aussi, je crois.
Qui a viré plein de monde.
Oui, enfin, elle n'a pas vraiment le choix non plus. Mais j'ai remarqué quand même que les noms féminins étaient principalement plus des professions de l'ombre, comme éditeur.
Oui.
Que au grand jour, quoi, scénariste.
Ça commence à changer. C'était le cas pendant une période, mais maintenant, je pense que ça y est, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de femmes artistes qui sont sur le devant de la scène. Donc oui, effectivement, il y a Gail Simone, il y avait comme autre scénariste, il y a Marjorie Liu aussi.
Oui,
mais très souvent, on voit quand même qu'elles viennent d'autres milieux en fait, pas des comics de base à l'origine. Bon, oui. Ça pose aussi la question du renouvellement du pool créatif des comics, puisque pendant longtemps c'était en fait d'anciens lecteurs de comics qui devenaient eux-mêmes auteurs. Et maintenant, comme le public depuis 20 ans s'est énormément réduit.
Oui, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi des femmes. Et donc, je pense que après, il y a peut-être aussi le fait que c'est un milieu qui paraît machiste de prime abord quand tu connais pas forcément et que du coup t'oses peut-être pas forcément quoi. Tu vas te dire attends je suis une femme, je vais peut-être pas aller voir pour travailler là-dedans parce que il y a tellement peu de femmes finalement qui l'ont fait qu'il doit bien y avoir une raison.
Et pourtant c'est pas machiste quoi, il faut ouvrir les yeux. Les super-héros portent des collants. Et ça c'est pas féminin, je vois pas.
Ouais, non, mais ça,
c'est quand même un milieu extrêmement extrêmement masculin. Non, sûr, rien qu'à quand tu vas dans une convention, tu vas dans un festival de BD, compte le nombre de mecs, le nombre de nanas, bon voilà.
Genre, d'ailleurs les filles généralement viennent toujours en cosplay.
Oui, ou sinon
c'est vrai, moi je viens toujours en cosplay, toujours.
Ouais, ouais, moi c'est pareil.
Principalement
les
nanas
qui sont là, c'est souvent les copines du fan de base de comics quoi.
Oui, du geek.
Il y a voilà. Aussi les femmes aussi, elles sont surtout attirées par le manga quoi. Donc du coup quand tu vas au Comic-Con à Paris, elles sont là mais elles sont partie manga quoi.
Ouais, c'est plutôt normal étant donné que ça fait 30 ans que les éditeurs de manga ont bien ciblé le public et
voilà.
Après, moi, je voudrais aussi mettre en avant, vu qu'on bosse sur le net et tout, pas forcément voilà des écrivains, enfin des colors, enfin bref, je voudrais quand même parler de Sarah Lima et de Blair Butler, voilà, aujourd'hui sur Internet, quand on s'intéresse aux comics, on a Sarah Lima alias Babs sur Comics Vine, qui est quand même une femme, enfin voilà, qui est belle, qui connaît beaucoup sur les comics, qui fait des conventions, et c'est vrai que ça, c'est aussi un renouvellement comme Blair Butler, qui est pas mal aussi. Donc voilà, c'est aussi un renouvellement du type de femme qui peut s'intéresser aux comics. C'est pas forcément la nana grosse derrière son ordinateur.
Regarde-t-on leurs avis pour leurs avis? C'est là aussi le problème.
Ah, moi, je pense que si, quand même. Enfin, j'espère.
Moi, je
connais pas beaucoup la question comme ça.
C'est parce qu'elles sont américaines, je pense. C'est pour ça aussi qu'elles sont dans ce ton-là.
Parce que quand tu regardes les commentaires, par exemple, des Weekly News que fait Babs, t'en as souvent, et c'est, comme je dis souvent, c'est même très souvent, ouah, Babs, t'es super belle. On commente pas, ce qu'elle a raconté. Mais... On commente, ouah, t'es super belle. Ce qui est vrai aussi, mais, enfin, voilà, quoi. Ce qui est de l'intérêt, c'est quand même ce qu'elle raconte, quoi.
Oui, mais on va pas en faire le monde non plus. Enfin,
voilà,
on y aura toujours droit.
Si je veux dire, le fan de comics qui a 15 ans, il voit qu'il y a une nana qui parle de comics, il va s'en foutre de ce qu'elle raconte, quoi.
Tu parlais tout à l'heure de femme belle et pas forcément grosse derrière son écran. Moi, je trouve que Gail Simone est belle.
Oui.
Alors que c'est une femme forte.
C'est un avis.
Marjorie est très mignonne aussi.
Les
femmes sont belles déjà, à la base.
Ouais, Marjorie, je vois pas son visage.
Il n'y a pas une chanson Frédéric François ou un truc qui sont toutes les femmes sont belles.
Oui, alors on a dit qu'on ne citait pas.
Pas Jeanne Masse.
Tu pourrais mettre ça en
voilà, non. On a vu les années 80 en général pour la musique, vous êtes gentils.
On n'a même pas nommé d'ailleurs tout à l'heure dans les auteurs femmes Stéphanie Hans quand même.
Oui, mais oui.
Oui.
Corico.
Voilà.
Bon.
Le message est passé.
Non mais c'est vrai, regarde, tu fais les dernières conventions, tu regardes les femmes qui étaient invitées, il n'y en a pas beaucoup, hein.
Oui, mais parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Généralement, c'était l'épouse qui venait avec, par exemple, comme Andy Diggle pour le LCF ou la femme de J.H. Williams.
Ça va venir.
Mais donc,
on va revenir peut-être sur le sujet du manga, parce que tu voulais dire quelque chose dessus, Benny.
Oui, Alexandre donc disait justement les mangas à juste titre. Il faut savoir que justement, donc les mangas, il y a toute une gamme de mangas pensés, écrits pour des lectrices. C'est les shoujo. Hein,
les shoujo mangas, ouais, c'est ça.
Et en fait, est-ce qu'on a l'équivalent dans les comics,
quelque part, t'as quand même des gammes archi comics qui sont pour des lectrices, mais lectrices plutôt jeunes, quoi. Après, c'est vrai que quand tu grandis,
Betty et Véronica, moi, je cherche encore l'intérêt, quoi.
Oui, mais voilà, genre Sabrina, l'apprentie sorcière, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est.
Enfin, ça, c'est vraiment un public super jeune, quoi.
Oui, c'est pour les jeunes, voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une incapacité de l'industrie des comics à essayer de sortir des comics pour les femmes.
De s'adapter à un marché féminin, ouais.
Voilà.
Il faut aller chercher, je pense, en dehors du mainstream.
Oui, il faut aller taper dans les BD indépendantes. Pour moi, le plus bel exemple, c'est Strangers in Paradise.
Oui, on ne me spoil pas la fin.
Non, mais...
Non, bien sûr,
ils meurent tous, c'est éclaté par une bombe atomique. Il y a une bombe atomique et tout le monde meurt. Voilà.
Non, on ne spoil rien.
Par contre, toi, tu peux le dire. Hein.
et puis Echo.
Oui.
Echo.
Enfin, en gros, même... tout ce que fait Moore.
Terry Moore. Mais ouais, mais Terry Moore, c'est un grand monsieur parce que c'est un garçon et il arrive très très bien à parler des femmes, à écrire sur des femmes de manière intéressante. Et alors que c'est un homme. Donc, ça, en fin de compte, peut-être que quelque part, ça veut rien dire, cette histoire de scénariste femme qui pourrait mieux s'en sortir avec des personnages féminins, parce qu'il y a des hommes qui y arrivent très bien.
Hein, c'est le gendre idéal, voilà, c'est tout.
Il est marié, il a déjà il a des enfants, non, c'est pas possible.
Il y a aussi Greg Rucka qui a quand même fait des années.
Avec ce qu'il a fait chez Oni Press, notamment, dont j'ai plus le nom.
Et alors,
comment tu as dit, Sam, j'ai oublié le nom. Queen and Country, voilà, merci.
Et la dernière qui était Stumptown.
Stumptown, ouais.
Et une question.
Deux très bonne série.
Une question peut-être à Kachou. Alors je sais pas si on en a lu beaucoup, mais est-ce que tu as lu souvent des comics écrits par Bendis?
Oui, enfin Spider-Woman.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai lu encore? Ah là, tu me prends de court. Oui, j'en ai lu quelques-uns, ouais.
Alias, par exemple.
Alias, non, je l'ai pas lu.
Ah, quel dommage. Ouais, j'aurais bien aimé.
Ou même pas aimé.
Non, mais.
Parce non, Powers, ouais. Tina, elle est quand même bien écrite.
Oui, mais justement, moi, j'aime pas du tout la manière dont il a d'écrire les femmes. Et justement, j'aimerais avoir ton avis dessus. Alors bon, effectivement, si t'as lu Spider-Woman, ça va peut-être être un peu juste.
Oui.
Mais t'as pas été accroché?
Non,
t'as...
Du tout. Non, je trouvais ça un peu... je sais pas trop
cliché. Aimé.
Ouais, cliché, et puis... je connaissais pas du tout le personnage, donc je suis restée un petit peu sur ma faim.
Le problème, c'est qu'il s'appuie énormément sur la continuité pour l'écrire, quand sur la mini que tu cites, il s'est énormément appuyé sur son histoire, et...
Sur sa continuité, je dirais.
Voilà.
En ne connaissant pas le personnage, en fait, il me manquait beaucoup d'éléments.
D'accord.
Et voilà.
Bon, je resterai sur ma frustration.
Je suis désolée. La prochaine fois, on en reparle.
Ouais. Après, par rapport à des comics, justement, qui sont non mainstream, je pense par exemple à Fable, où on a quand même des personnages de femmes qui sont plutôt assez fortes, gentilles ou méchantes.
Cinderella, par exemple.
Voilà. Ou...
Un Sam.
Ouais.
Ou même l'autre taré, là. Boucle d'or.
Ah, Boucle d'or.
Voilà. Ou Blanche-Neige. Je pense qu'effectivement, si on va dans du truc un peu plus indépendant, on retrouve des personnages féminins qui sont forts et qui...
Et la série Love and Rockets aussi.
Comme Blanche-Neige.
Je connais pas du
génial.
Tout.
Je connais pas.
Je connais pas.
Attendez, je vais faire une blague.
Vas-y,
fais ta blague.
Blanche-Neige, justement, qui dans Fable reprend du poil de la bête.
Voilà, donc c'est vrai que c'était super.
Ah oui, fallait l'entendre.
Waouh.
Sinon, il y a...
Il faut lire Fable pour comprendre quelle est la boule.
Sinon, il y a aussi Zenescope qui utilise énormément les femmes.
Ah oui, mais à des fins marketing.
À des fins marketing sur la couverture.
Oui.
Parce que après, l'intérieur n'est pas forcément de bonne qualité, mais les histoires, c'est toujours des femmes, que ce soit dans Grim Fairy Tales, où c'est toujours une femme qui mène la danse, enfin, qui mène l'histoire, ou dans les nouvelles séries qui vont sortir, il y a Inferno aussi. Et à chaque fois, c'est une femme en rôle principal.
Même si sur la couverture, c'est clair que c'est mis en avant, mettre en avant les formes de...
Je pense que là, c'est pour agiter le lectorat masculin de 13 ans.
La partie féminine du milieu.
C'est, voilà. C'est voilà.
On a aussi chez Blue Water la gamme Girls Power, je crois, qui fait bon, c'est des bio, c'est des biopics.
Sur les Spice Girls, non?
c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment des biopics sur la femme. Alors on a la femme dans la politique, la femme entertainment, quoi.
Ah, c'est ouais, mais je pense.
Sur Carboni.
Oui, c'est ça.
Sur Sarah Palin aussi.
Sur Sarah Palin, etc. Ouais.
Que de grandes femmes de l'histoire. Ouais.
C'est ça.
Une très grande femme de l'histoire, Sarah Palin, magnifique.
Honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus pour
faire quelque chose.
Ouais. J'aime beaucoup sa version.
Ouais, non, c'est vraiment
sa
pour
version
faire parler
olé olé
d'eux,
de Sarah Palin.
Ils avaient fait pareil pour Michael Jackson après sa mort. Bon, non, là, je pense que là, c'est vraiment du...
c'est pour aller chercher de la fille dans le comics. Hein.
Après, moi, je sais que, par exemple... iZombie, que je lis, je pense que ça peut plaire à un public féminin, parce que justement, déjà dans le dessin de Michael Red, c'est un dessin qui... Bah c'est Michael Red, quoi. Et je pense que l'histoire... Enfin, moi, en lisant iZombie, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être adapté en série et marcher à la Buffy, quoi.
Alors justement...
Buffy.
Justement, voilà. Justement, on parlait des années 90. Dans les années 90, c'était aussi surtout l'émergence de toutes ces séries à héroïnes comme Buffy, comme Xena.
Mm-hmm. Ah, ça.
Ah, bah oui. Et...
j'aime bien le petit silence gêné. Parce que tout le monde a une image de Xena.
Voilà. Et c'est tous revenus, donc du coup...
Et attends, il y en a eu d'autres.
Ça aussi, c'est les premiers émois.
Alors, plus récemment, il y a eu Alias, la série.
Les deux premières saisons, on va dire.
Oui, bah, enfin,
je suis comme toi, ça. Alias.
Pour faire la différence avec le comics, pas comprendre. Ouais.
Bizarrement, Alias, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir à Claire. Claire peut nous expliquer peut-être pourquoi elle n'aime pas Alias.
Je ne supporte pas Jennifer Garner.
Ah non,
pour moi, c'est un mec qui essaie de se faire passer pour une femme. C'est-à-dire, elle a une tête de mec. Vraiment, elle est pas attirante du tout. Elle a pas de forme. Elle est
ça parce que c'est jalouse.
Ah non, vraiment pas. Non, non, il y a des femmes vraiment que je trouve belles. Alors, elle, vraiment, tu vois.
Tout le monde se retourne vers Claire, pointe son doigt virtuel et fait un gros bout.
Non, mais vraiment pas. Je veux dire, Jennifer Garner, c'est mon Tom Cruise féminin. C'est-à-dire que Tom Cruise ne peut pas le supporter non plus. Et voilà, c'est vraiment... je n'y arrive pas. Donc Alias c'est peut-être une très bonne série, mais comme il y a Jennifer Garner dedans,
sont très bonnes.
Voilà.
Non, enfin, tu peux reprendre, Benny.
Tout ça pour dire que dans les années 90, il y a quand même eu énormément de séries qui ont fait la part belle aux héroïnes, aux femmes. Et finalement, peut-être que les comics mainstream, en tout cas, devraient essayer de faire un peu plus ce type de série, parce que aussi bien Alias que Buffy, ça a marché du feu de Dieu auprès d'un public masculin.
On a eu des tentatives hein, récemment comme Jungle Girl.
Non. Ça n'avait aucun. Il y avait rien quoi. C'était pas. C'était juste graphique. Il y avait pas de.
Moi aussi, c'était très beau. Je pense que les comics justement vont aller vers ça. Enfin, je veux dire quand tu regardes Power Girl par exemple, certes, elle a des atouts, mais en même temps, le scénario, c'est pas un scénario plan non plus quoi.
Mais on a aussi Bad Girl récemment.
Oui,
la nouvelle version récente est beaucoup plus intéressante, je trouve, que la version du personnage muet, quoi.
Ouais, oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que...
Ah si, le 400 Drag Queen avait ses bons côtés, je trouve.
Buffy, le comics, fonctionne toujours très très bien, grâce à la notoriété de la série, et peut-être aurait-il fallu, oui, qu'il y ait, par exemple, des séries télé, ou même des dessins animés, avec vraiment des personnages féminins de comics, quoi. Alors, il y a eu Birds of Prey, justement, je crois, en série.
Oui, ouais, ça n'a pas vraiment marché.
Qui n'a pas marché, malheureusement.
Ouais.
C'est bien dommage. Si tu en as vu?
Ah, bah oui, je les ai tous vus, hein. Moi, j'avais beaucoup aimé, hein. Ouais, j'ai adoré, mais moi, c'est un peu cheap, hein. C'est vrai que ça manque un petit peu de qualité au niveau des effets spéciaux et tout ça. Ça aurait mérité un petit peu d'argent investi.
C'est les libertés scénaristiques qui m'ont gêné.
Oui, aussi. C'est un petit peu léger, moi j'avais comparé ça à la série Charmed. Voilà, pour pouvoir la comparer un petit peu, mais
Charmed qui fait un bon retour dans les comics, hein, d'ailleurs, ça se voit relativement bien pour ce que c'est, en tout cas.
Ça voilà, ça c'est du comics qui est vraiment pour pour filles. Enfin, je veux dire, c'est
clair. Oui, voilà. Oui, oui.
C'est vraiment ça, quoi. Ouais.
Puis les héroïnes au cinéma, pareil, hein, ça n'a pas fonctionné.
Tu as oublié la série télé Witchblade.
Y a oui, oui.
C'est une belle blague. Hein. Ouais. Voilà.
Mais il y a eu aussi donc au cinéma Elektra, Catwoman avec Halle Berry.
Mm-hmm. Qui sont des fours, qui sont des total fours. C'est des fours, c'est de la merde.
Mais oui, et elle a failli perdre un œil d'ailleurs sur le tournage en plus.
Ah mais.
Après le problème, il vient peut-être pas de, il vient pas des héroïnes ou du public, c'est aussi de la façon dont c'est fait. Enfin, je sais pas, c'est mais Catwoman, c'est une gigantesque daube quoi.
Ouais, tout à fait.
Mais ça tombe bien parce que justement, c'est le deuxième débat qui suit les adaptations. Comme quoi, on est super raccord. Hein.
J'attendais un moment pour la placer cette scène.
Donc
qui allait, secret de montage a été enregistré la semaine dernière.
Oui, en fait, voilà, c'était enregistré dimanche dernier.
Donc il nous fallait une transition.
Voilà. Sur le net, par exemple, en France, je ne suis pas trop. Je sais qu'il y a quand même de plus en plus de sites et de blogs qui se font autour de on est des filles, on aime les comics,
oui,
on le lit, on le
dit. Ça bouge. Voilà, ça bouge pas mal. C'est très très bien. C'est très très bien. Donc, je trouve que c'est une bonne chose parce que nous aussi, on a le droit de s'exprimer là-dessus.
Et qui sait, peut-être que la femme sera ce qui va sauver les comics de la perte. Hein.
Alors déjà, à la base, la femme est l'avenir de l'homme. Et pourquoi pas?
Et oui, puisque on a un excellent article de Sam qui nous parle de la chute des comics qui a été fait il n'y a pas très très longtemps. Et voilà.
Et il n'y a pas une seule fois le mot femme de cité dedans, c'est un scandale.
Non, mais c'est aussi parce que quand tu regardes les sorties, les choses comme ça, elles sont pas présentes. Enfin, je veux dire, je sais pas, ça représente quoi, peut-être 10%, 15% les femmes dans les comics. Et encore, tu vois, je suis même pas sûre du. Donc c'est normal que quand on en parle, je veux dire, c'est comme pas la Capao, il y a la liste qui a été faite, il y a que des hommes dessus. Il n'y a pas de femmes. Sauf à la fin, justement, où ils disent homme ou femme de l'année, mais il n'y a pas de femmes quand même.
Mais non, il y en a pas. Et pourtant, moi, je trouve qu'il y a quand même des nanas qui se font remarquer en tant que scénaristes, en tant que dessinatrices. Et la question que je me pose, c'est pourquoi elles sont pas, pourquoi elles sont pas nominées? Amanda Conner, par exemple, qui travaille sur Power Girl, pourquoi
elle mérite d'avoir travaillé?
Travaille plus sur Power Girl.
Non, plus, mais comme c'est l'année 2010, c'est en référence à l'année 2010, c'est ça.
Donc, peut-être à cause des mauvais chiffres de vente, enfin des mauvais, en tout cas des chiffres de vente qui ne sont pas.
Oui, non, mais là c'est juste une nomination. Moi, je demande pas une.
Oui, quel est le prix
qu'elle soit récompensée, mais au moins une nomination. Quoi.
Ouais, pour la forme.
Gail Simone, pour la forme.
Ouais, non, mais même.
Gail Simone devrait être nominée.
Aussi, elle mériterait d'avoir une nomination.
Ne serait-ce que pour avoir travaillé sur Secret X conjointement avec Wonder Woman, avec Birds of Prey. Enfin, voilà, il y avait de quoi.
Mais il y avait quoi oui, exactement. Je pense aussi à Jo Chen pour ses couvertures sur Buffy, qui sont vraiment magnifiques. Bon, enfin, voilà.
J'ai l'occasion de croiser Marc Millar à la Capao, je lui poserai la question en off. Pourquoi il n'y a pas de femmes?
Au moins une, quoi. Enfin, je ne demande pas la lune, mais au moins une.
Bah si, malheureusement, si. Une femme nominée, c'est demander la lune.
Ah, il faut croire que oui.
Ouais.
Alors, c'est vrai qu'en parallèle à ce genre de nomination, parce qu'il y a, c'est pas la seule, hein, c'est pas le seul award qui est dédié aux comics, il y en a d'autres, et il y en a un qui existe, mais je crois que ça s'est terminé en 2009, c'était les Lulu Awards, qui étaient dédiés...
non, mais oui.
Le nom de merde.
Qui étaient dédiés aux femmes, uniquement aux femmes.
Ah, c'est pour ça, donc.
Non, mais il y a une histoire, hein. C'est parce que la créatrice, j'ai plus son nom, mais justement, c'était dans les années 50, je crois, et elle avait créé un comics.
Comics s'appelle Little Lulu.
Voilà.
Et c'est un hommage à ce titre-là, ce comics-là qui s'appelle Little Lulu, dont l'héroïne est une femme. Donc, il y a eu cette initiative donc de recentrer un peu, de donner des récompenses aux femmes. Dans cette industrie, mais ça s'est terminé en 2009, en fait, ça n'existe plus.
C'est tout simplement parce que ça n'avait pas de succès, c'est pour ça qu'il n'y a pas de femme de nominée.
Non, mais
hein.
la logique voudrait que plutôt que de faire des festivals pour les
hommes, c'est une blague, hein, c'est une plaisanterie.
Logique voudrait que plutôt qu'il y ait spécial homme, spécial femme, que quand on est un palmarès, enfin voilà, que les femmes, vu qu'elles sont quand même aussi présentes certes, elles sont moins présentes, mais elles sont là, que quelque part, pas dans toutes les catégories, mais peut-être au moins une ou deux, qu'elles soient là.
C'est la proportionnalité de toute façon.
Dans les autres médias, comment ça se passe dans les autres médias, dans le cinéma, dans la musique, on a mis les artistes hommes et les artistes femmes qui sont en compétition. Pourquoi pas dans les comics?
Oui, parce que dans les autres médias, généralement, il y a une certaine parité en termes de nombre.
Oui.
Il y a beaucoup d'actrices, comme il y a beaucoup d'acteurs.
Oui, mais s'il n'y avait aucune femme qui œuvrait dans les comics, là, maintenant, je veux bien. Mais il y en a plein.
Il y en a, mais il y en a pas
autant. Après, justement, c'est peut-être le... Enfin, à force de se dire, ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes, du coup, on le fait pas, peut-être qu'il faudrait justement le faire pour amorcer le coup, quoi.
Voilà.
Oui. Et ben, c'est ce qu'elle a fait.
Oui. Tu avais fait ta liste.
Moi j'ai fait une liste. Non, mais...
Au niveau de Capo, moi je te parle.
Ouais.
Au niveau des gros événements, machin, bah, quoi, ils le font pas, quoi.
Mais peut-être que ce sera rectifié l'année prochaine.
Bah ouais, ça peut être une critique qu'on peut leur faire, à eux et à d'autres, dire pourquoi.
Envoyez vos plaintes à Marc Millar. D'ailleurs, envoyez vos plaintes tout court à Marc Millar.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce monsieur, ça va pas être le sujet du débat, on va pas s'en sortir, mais c'est vrai que il faut aussi prendre en compte quand même, et je suis pas du genre à défendre Marc Millar, vous connaissez assez bien là-dessus, mais c'est la première édition, il y aura forcément des ratés, il y aura forcément des choses à améliorer.
Ah oui, mais bien sûr.
Ce qui était le plus drôle, en fait, c'est qu'il ait mis homme ou femme l'année. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de femme. Il aurait rien mis, en fait. Je pense que, tu vois, ce serait passé.
Artiste de l'année, quoi. Voilà.
Je suis entièrement d'accord sur le principe. Hein. On met pas homme ou femme de l'année si c'est pour pas citer de femme. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, c'est peut-être une erreur due à la jeunesse de la convention et que ça sera rectifié l'année prochaine. Bon, ça réparera pas forcément le tort qui a été fait pour cette année, mais... Bon,
non, mais c'est clair, ça va pas le réparer, non.
Comment tu fais t'en énerver d'un coup?
Ça y est, je m'énerve. C'est la fin d'émission que je m'énerve. On peut recommencer là l'émission? On va la recommencer.
Allez, on va faire un dernier petit tour de table avec une superbe question, puisque c'est un débat. Et je vais commencer, puisque je suis très galant, par un homme.
Ah, ça c'est bien.
Donc je vais poser cette question à Benny, puisque question con.
C'est Benny.
Ah, réponse voilà. Con, limite van, donc Benny. Pour ou contre les femmes dans le comics? J'avais prévenu que c'était une question.
Non mais regarde, quand bien même tu supprimes tous les personnages féminins, il y aurait plus grand chose à raconter, hein.
Oh, comment tu essaies de rattraper le coup.
Donc t'es plutôt pour, en fait.
Ah bah oui, non mais oui, Magic, non mais moi j'avais une autre question en fait, en définitive, à poser à Kachou et à Claire, c'était justement ce qu'elles aiment, pourquoi elles lisent des comics.
Bah pour la même raison que nous, moi je pense.
Ouais.
Parce que c'est fun.
Oui.
C'est l'aventure,
parce qu'il y a des beaux dessins.
Ça dépend, prends Larry Stroman et on verra s'il y a des beaux dessins.
Non mais parce que... Bah... Enfin, un bon comics, hein, on parle bien sûr de ça, hein, on parle pas d'un truc un peu chiant, mais voilà, parce que il y a un scénar qui se tient, il y a des personnages intéressants, il y a une mise en dessin qui est bien faite, enfin, comme vous, je pense, enfin.
D'une manière générale, vous êtes quand même plus attiré par les personnages féminins ou vous en foutez?
Non, moi je suis, effectivement, plus intéressé par les personnages féminins, ouais. Ouais. Mais
moi, pas forcément. Moi, ça dépend vraiment. C'est vrai que là, si je regarde ce que je lis en ce moment, je lis Zatanna, iZombie et je lisais Wonder Woman. Mais
j'aime beaucoup l'emploi du passé.
Voilà. Mais en même temps, à côté de ça, je lis aussi du Green Arrow, je lis Unwritten. Enfin, j'adore Sandman. Enfin, voilà.
On sait très bien que c'est le personnage de Death que tu préfères dans Sandman.
Ah non, c'est Sandman.
Et bah, apparemment, il y a un gros lectorat féminin, hein, de toute façon, pour Sandman.
Oui, ouais. Oui, mais c'est parce que le côté onirique et tout, ça parle vachement aux femmes.
Gaiman a créé deux femmes fortes, hein, quand même, dans sa carrière. Enfin, un peu plus, mais deux qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est Death et puis Angela, chez Spawn.
Ouais. Je pense que c'est une question que, quand tu poses la question à une femme, c'est... Tu auras la même réponse qu'un homme, finalement. Pourquoi tu lis des comics?
Ah, mais absolument. Moi, par exemple, je suis une accro à The Walking Dead. Bon, Pourtant, je suis une fille, alors que c'est quand même, je pense, une...
Mais on sait très bien que c'est le personnage de Michonne qui t'intéresse.
Oui. Non, 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 tous les personnages m'intéressent. C'est vrai que oui, bah, j'aime bien, j'adore Andrea, j'adore Michonne, mais...
C'est con, parce que Michonne meurt dans l'épisode 88.
Ah, mais tais-toi! Non, mais
déconne. Putain, si ça arrive, Bonnie, si ça arrive, tu vas avoir des lettres de fans d'insultes.
Si ça tombe,
spoiler man.
Non, non, c'est pas vrai, je l'ai lu, ce n'est pas vrai. Et je confirme, parce que je suis aussi un fan de Michonne, donc...
Mais au-delà des personnages, c'est vraiment le comics en lui-même, son scénario incroyable qui me plaît, et voilà. Ouais, c'est vrai, j'aime les zombies, mais bon, voilà.
Pas... Mais sur les étalages, sur le mainstream, c'est vrai que moi, par exemple, je suis plus, enfin, quand je vois du Bad Girl, du Power Girl, du Wonder Woman, c'est vrai que j'ai plus tendance quand même à regarder, Batman, Iron Man, etc. Mm-hmm. Et c'est peut-être l'inverse pour vous.
Ouais.
Mais c'est vrai. Enfin voilà quoi. Ça c'est un truc qui reste quand même assez immuable quoi, malheureusement.
Ouais. Moi je serais jamais attiré comme ça prime abord à un Deadpool ou à un Wolverine ou un Thor. Il faut qu'on m'y emmène. Il faut qu'on me dise ah, lis ça parce que ça mérite d'être lu. Vas-y. Ouais. Moi, j'irai pas le lien.
Moi tu vois par exemple là. J'ai demandé à Steve, je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que tu me conseillerais pour lire sur du Daredevil, par exemple? Parce que ça m'intéresse, mais comme ça, tu vois, enfin...
Le run d'Andy Deagle qui est très bon.
Voilà, ça me...
Ouais, bon.
Après, pourquoi aussi je vais peut-être plus facilement vers... Enfin, que je peux aller vers des comics féminins, c'est aussi parce que, en ce moment, enfin, il y a moins de continuité, généralement. Et du coup, c'est plus facile aussi de plonger dedans... et de te dire bon bah je comprends tout et pas avoir à te lire plein de choses avant pour comprendre
Tu sais pour lire Superman t'es pas obligé de lire les 700 anciens
non mais je sais mais je veux dire tu vois ce que je veux dire quoi et que en
et
plus
bah, si,
elles sont pas
bah,
forcément
si t'es obligé
elles sont pas
sinon tu comprends pas à un moment donné
elles sont pas forcément incluses dans les grands événements et c'est pas plus mal parce que finalement elles ont leur série qui se suffisent à elles-mêmes et que voilà tu suis ta série et t'as pas besoin de suivre à côté trois séries en plus quoi.
Ouais, bien sûr.
Ben, par rapport à la question, de toute façon moi ma lecture actuelle c'est que du que des femmes en fait, puisque je lis Gotham Sirène, je lis Zatanna, Power Girl, je lis Bad Girl. Et les titres de Zenescope, donc moi c'est exclusivement pour l'instant du féminin. Donc...
Ça m'aime bien. Il a marqué ce gars-là.
Non mais j'ai arrêté les autres séries parce que ça me saoulait d'avoir des crossovers de partout.
Mais tu ne lis pas Wonder Woman.
Non parce que le personnage m'attire moins en fait.
Non mais t'as juste besoin de dire non. C'est pas la peine d'expliquer pourquoi.
Je pense que Kachou ne sera pas d'accord avec toi.
Non, mais là, en ce moment, Wonder Woman, j'ai un peu laissé de côté aussi.
Ah, tu vois.
Donc, j'attends la suite.
Voilà, on est tous d'accord.
Donc, on est... Ouais, non, mais bon.
Ah non, j'ai rien contre le personnage, c'est juste que, pour l'instant, déjà, quand tu lis 6 ou 7 séries en même temps, t'as pas besoin d'en rajouter une autre, quoi.
C'est
d'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, je suis un lecteur aussi de Walking Dead, qui n'est pas féminin, on va dire que c'est le premier. Mmh, mais après, ça fait trop, quoi, tu peux pas non plus s'éparpiller.
Non, c'est clair. Après le porte-monnaie, il y a un moment où.
Voilà.
Il y a même le temps aussi, quoi. Le temps, si tu veux vraiment pas rusher tes lectures et apprécier un minimum.
Quoi, ça veut dire que nous, on n'apprécie pas nos lectures?
Mais je suis en train de penser à quand on a des enregistrements de spéciaux, par exemple, et qu'on me demande de lire 80 comics que je voilà pour pouvoir en parler.
Arrivé, hein.
Non, ouais. Attends, Fable, j'en ai lu 70, un truc comme ça.
Non, t'en as lu à peine, même pas 50, arrête.
Non.
Même pas 50.
Ça paraît super long. Comme quoi, voilà, on les apprécie pas autant quand il faut les lire pour quelque chose. Donc.
C'est clair.
Ouais. Ouais.
C'est vrai, j'arrête Comic City. Hein,
suffit. Bien, c'est un
donc
podcast
voilà, pour,
que je vais finir.
Pour répondre à la question, moi je suis totalement pour, quoi.
Eh bien, moi j'avais un avis, je suis contre les filles dans le comics. Je veux qu'on revienne aux années 50, la femme au foyer, c'était très bien.
Voilà, c'était l'âge d'or.
C'était l'âge d'or. Oui, ben voilà, je ne suis pas tout seul. Non, je plaisante.
Dis celui qui a mis sa femme dans les comics et qui bosse dans les comics avec lui.
Voilà.
Ouais non, il y a de très bonnes histoires et c'est vrai que il y en a pas assez quoi. Pas assez. Ça laisse un vieux blanc, ça laisse un bon penseur.
Pas assez de femmes ou de bonnes histoires, c'est ça que
c'est, voilà.
Un peu les deux, un peu les deux. Et je pense qu'il n'y a pas assez de bonnes histoires autour des femmes.
Oui.
c'est pas assez varié non plus, quoi. Parce que quand je lis du Power Girl, enfin, je suis désolé, mais c'est, ça reste basique et ça ressemble assez à des aventures de Superman ou n'importe quoi, quoi. Elle se bat contre des gros méchants, mais depuis
d'ailleurs de quelle période
depuis le changement d'équipe. Ouais, depuis John Winnie, quoi.
Finalement, bon nombre de personnages féminins sont condamnés à ne pas évoluer, quoi. C'est ça le problème.
Ben, au début là, de la nouvelle série, je trouvais ça pas mal. C'était, on approchait le personnage différemment. Elle était, elle avait son propre caractère. Elle avait une double vie et tout. C'était sympa. Et puis là, maintenant, c'est vraiment le super-héros classique, quoi. Donc,
c'est le tandem Palmiotti-Connor, quoi, qui sont aussi ensemble à la vie. Hein.
Ouais, voilà.
C'est aussi, je pense, que Amanda Connor devait peut-être avoir son mot à dire peut-être dans les scénarios, quoi.
Mmh. Puis avec son style, on pouvait pas faire des histoires vraiment classiques, c'est pas possible.
Ouais.
Donc je crois qu'on va en venir à cette conclusion, une bonne histoire de femme.
Ça me demande pas mon avis.
Non, ça me.
Est une femme. Est une histoire écrite par une femme. Non, excuse-moi, ça me. Vas-y. Je vais juste finir sur mon idée, mais.
Oui, ben pour, hein, sans hésitation.
Peut-être pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Je te sens plus à lire du Witchblade ou du Jane 13, surtout pour Kathleen Fairchild.
Ah, toujours, Sam, toujours.
Je lis encore Witchblade, c'est très bien en ce moment.
Surtout les images.
Non, mais c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, la série, c'était. On va dire que le principal argument, c'était d'avoir l'héroïne à moitié à poil au bout de la page 2. Et ce jusqu'à la page 22.
Et des fois même dès la cover.
Voilà. C'était ça pendant tout l'épisode. Et puis en fait, depuis la reprise par Ron Mars, en fait, c'est devenu. En fait, il a complètement redirigé le titre vers une espèce de polar mystique. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux depuis.
Et bien un jour peut-être. Je vous en parle.
Mais ouais. Mais je pense que de toute façon, si on veut des histoires intéressantes, il faut peut-être aussi que les femmes se disent bah je vais en écrire. Enfin voilà, tout simplement, qu'elles se disent
Qui de mieux
ça
qu'une
me plaît
femme
pas,
pour,
du coup je le fais.
Qui de mieux qu'une femme pour aborder la psychologie féminine, de toute façon.
Et après, il y a une volonté de l'éditeur aussi. Hein.
Oui, mais dans ce cas-là, tu pars sur des choses... je veux dire, avec aujourd'hui la possibilité qu'on a avec Internet et de te faire connaître et de montrer ce que tu es capable de faire sans passer par les éditeurs, je pense qu'on peut avoir peut-être, en cherchant un peu sur le net, hein, dans des webcomics ou des trucs comme ça, ou des nouvelles, ou je ne sais pas, on peut peut-être découvrir des futures femmes qui seront scénaristes dans... plus tard dans du mainstream, tu vois, mais pour montrer qu'elles sont capables de faire des personnages forts. Mais bon, là encore, faut déjà qu'elles aiment le comics à la base, je pense.
Ouais.
Bien. Mais c'est sur cette belle pensée que nous allons nous quitter. Je vous remercie tous d'être venus. Donc, vous pouvez retrouver Lex sur Cap Chronicles.
Exactement. Je fais les chroniques des indépendants.
Et sur Twitter aussi.
Et sur Twitter.
Exactement, sur Twitter. Très présent
sur Twitter.
je n'avais pas osé lancer cette petite chose, mais allons-y Franco. Vous retrouvez Sam sur des Unspoken, sur les spéciaux.
Quand mon ordinateur ne plante pas.
Voilà.
en plein enregistrement.
Hein. Petit voilà, en plein milieu, c'est toujours sympa.
Vous retrouvez Benny partout où je suis. Il me suit comme mon nom.
C'est son nom. Benny et Steve, voilà.
Benny est mon Robin. Je suis pas sûr que ça va lui plaire, mais il ne réagit pas.
Ouais, je sais pas, on en discutera.
je viens de te donner une petite crise cardiaque, c'est ça? Oui, apparemment, oui.
Et quel Robin? Digresson ou Damian?
Ah, je ne répondrai pas de pardon de père.
Pardon.
c'est plutôt un Jason Todd, je dirais.
Putain.
Nous avons donc perdu Benny. Hein.
Non, Jason Todd, ouais, Jason Todd, ça va.
Voilà.
Vous retrouvez Claire partout.
J'adore, à chaque fois, c'est partout.
Malheureusement, ouais. Dans tellement de choses que ça devient difficile de suivre, même pour celui qui vit avec.
Ouais.
Vous la retrouvez sur Comic City, aussi webmistress de Cap Chronicles, et puis sur ses propres projets, Webzini Comics.
Puis, oui, mistress.
Comics, The Twitch Project, Facebook, Twitter.
Elle est partout.
Et Media Comics.
Elle est partout. Et Media Comics, bien sûr.
Bien sûr. Et pour terminer, honneur à l'invité, vous retrouvez Kachou sur son blog Lesbian Geek. Je rappelle l'adresse, c'est thelesbiangeek.wordpress.com. Je rappelle que le lien sera dans les notes de l'article du podcast. Et puis merci d'être venu.
Eh ben, merci beaucoup. Juste un truc aussi, j'interviens aussi sur notre blog qui s'appelle comicsblog.fr. Voilà, je fais des petites reviews et une petite review aussi de la semaine, l'actualité de la semaine qui est un petit peu rigolote. Donc voilà.
D'accord.
Voilà, voilà. Mais merci beaucoup.
Très bien.
J'ai apprécié d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment. Même moi, j'ai appris des trucs aussi. Hein, faut pas croire. Et c'était vraiment très sympa.
Eh bien, ce sera avec plaisir.
Ouais. À renouveler peut-être. Hein.
Oui. Ben avec plaisir.
Il y a pas de souci. Eh bien, merci. On se retrouve tout de suite pour le deuxième débat. Un débat. On a déjà un peu éventé le thème, mais voilà. Je vous laisse avec la deuxième bande d'invités.
Ça on ne peut pas dire autre chose.
Mais de toute façon, c'était nous les mieux, hein. Donc.
Je me suis rendu compte que ça pouvait prêter à confusion au moment où je l'ai dit. Donc, je me retrouve avec la deuxième salve d'invités tout de suite pour le deuxième débat. À moins que, vu le temps actuel, ce soit publié en deux fois, ce qui est fort possible.
Et donc, dans ce cas-là.
Donc dans ce cas-là, vous aurez un deuxième podcast avec le deuxième débat du Comic City Chronicles. Merci à tous et à très bientôt.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Ciao.
À bientôt.
Bye.